Sermon pour le deuxième dimanche de carême sur l'épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Avant de contempler Jésus sur le mont Tabor, l'Église nous avertit par la bouche de saint Paul que la pureté est requise à toute transfiguration. Il n'y a pas de glorification sans sainteté, et il n'y a pas de sainteté sans pureté. Aujourd'hui, l'Église lit indéfectiblement ces trois réalités comme pour nous avertir de ne pas négliger ce combat intérieur que les chrétiens seuls mènent réellement. Dieu ne nous a pas rachetés pour que nous vivions comme vivent les païens. Dieu ne nous a pas appelés à la vie divine pour que nous restions comme ceux qui nous entourent. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification, c'est-à-dire une transformation complète de notre vie qui correspond à une consécration de tout notre être. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? 1 Corinthiens 6, 19. Saint Paul ne dit pas « La volonté de Dieu, c'est que vous soyez d'honnêtes gens ». Il se place à un niveau surnaturel, la sanctification. La différence est grande. Être honnête, le monde n'y voit pas d'objection. Être vertueux, les philosophes et les autres religions l'enseignent volontiers. Mais être saint, voilà ce qui est propre aux chrétiens. La sainteté consiste à appartenir totalement à Dieu. Elle signifie que l'homme ne se possède plus lui-même. Il devient une chose consacrée comme le calice posé sur l'autel qui n'est plus destiné à l'usage commun. Or, par le baptême, chacun de nous a été ainsi mis à part. Nous avons été marqués, configurés au Christ, séparés du monde pour Dieu. Et cela doit se voir dans notre mode de vie. L'apôtre insiste sur la pureté parce qu'il sait que là se joue la différence fondamentale avec le monde païen. L'impureté est malheureusement le péché qui replonge l'homme dans la domination de la chair et le rend à nouveau esclave. Ce péché enlaidit, défigure, fait perdre l'estime de soi et plonge insensiblement dans le désespoir et l'abandon du combat. Il fait perdre cette liberté intérieure si nécessaire à la paix de l'âme et à une vie pleinement heureuse. Il rend étranger aux choses saintes et à Dieu. C'est l'expérience qu'en fit saint Charles de Foucault avant sa conversion. Je cite « Par la force des choses, vous m'obligeâtes à être chaste, et bientôt m'ayant, à la fin de l'hiver 1886, ramené dans ma famille à Paris, la chasteté me devint une douceur et un besoin du cœur. C'est vous qui fîtes cela, mon Dieu, vous seul. Je n'y étais pour rien, hélas. C'était nécessaire pour préparer mon âme à la vérité. Le démon est trop maître d'une âme qui n'est pas chaste pour y laisser entrer la vérité. Vous ne pouviez pas entrer, mon Dieu, dans une âme où le démon des passions immondes régnait en maître. Mon Dieu, comment chanterai-je votre miséricorde ?» Fin de citation. Vivre selon ses passions, c'est vivre dans la compagnie des démons. Vivre dans la chasteté, c'est déjà vivre au ciel avec les saints, c'est la plus belle des compagnies. La morale chrétienne n'est pas une loi positive inventée, elle est simplement la conséquence de notre vocation éternelle. Si l'Église nous fait entendre cet appel en plein carême, ce n'est pas un hasard. Le carême est le temps où le chrétien doit redevenir ce qu'il est, un digne fils de Dieu. Le monde nous défigure, nos efforts doivent restaurer la grâce en nous. C'est tout notre être que nous devons réordonner vers Dieu. Or, la transfiguration n'est promise qu'à ceux qui passent par ce combat et cette purification intérieure et extérieure. La transfiguration n'est pas un spectacle, elle est une promesse. Elle annonce ce que deviendra l'homme victorieux. Mais pour monter au Tabor, il faut passer par la purification du corps. Pour voir la gloire, il faut d'abord combattre et renoncer aux ténèbres. Ainsi, chers fidèles, je dois vous l'accorder, Dieu ne nous appelle pas à une religion facile. Il nous appelle à rien de moins que la sainteté. Et cette sainteté commence par une lutte de tous les instants contre l'impureté. Cette lutte commence dans nos conversations, même sous prétexte de plaisanterie. Elle continue dans nos divertissements, dans les images, dans les vidéos que l'on accepte ou que l'on tolère, bien qu'elles soient mauvaises pour nous. Elle se poursuit dans les pensées, dans l'imagination qui, loin de tout regard, se laisse aller à des choses incompatibles avec la vie de la grâce. Dans ce combat, le maître mot est la fuite des occasions de péché. N'ayez pas peur d'être radicaux dans les dispositions que vous prenez pour ne pas vous mettre en danger. Si cela doit passer par un désabonnement à certaines plateformes ou par la décision ferme de ne plus errer sur vos écrans sans savoir quoi regarder, il faut le faire sans hésitation. La pureté est une vertu si belle, si bénéfique, si nécessaire au vrai bonheur qu'elle vaut la peine de tout quitter pour l'acquérir. Mais n'oublions pas que tous ces efforts seraient vains si nous ne demandions pas, dans notre prière, la grâce de la pureté. Comme toute vertu surnaturelle, elle est un don qui doit être demandé inlassablement. En ce deuxième dimanche de carême, demandons la grâce d'être profondément transformés, aussi bien dans notre corps que dans notre esprit, afin que nous soyons enfin disposés à contempler Dieu dans sa gloire. Nous sommes appelés à quelque chose de tellement plus grand que ce que le monde propose que nous ne devrions considérer cette paille des passions que comme un rien, comme quelque chose digne de mépris. Notre volonté doit être d'être des saints, de vivre d'une vie d'abondance dans la grâce. Que cet objectif ne s'éloigne jamais de nous ni de notre regard, c'est ce que je vous souhaite, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.